Voilà, bonjour à chacun. C'est vrai que ça nous fait plaisir d'être à nouveau de passage parmi vous, de vous revoir, avoir cette occasion de louer le Seigneur ensemble. Et c'est vrai, ce sont des moments précieux, et c'est vrai, j'ai eu beaucoup de joie à pouvoir partager, à pouvoir être dans la louange avec vous. Alors, je vous apporte la bonne salutation de toute l'équipe en Espagne, toujours. Alors, c'est une grâce de Dieu que le Seigneur nous fait, que les portes s'ouvrent encore et que l'Évangile peut encore être proclamé dans cette Espagne qui a vraiment toujours de grands besoins. Alors, le besoin principal, bien sûr, c'est de connaître Christ et de pouvoir rencontrer la vie en lui. Alors, l'équipe s'est déplacée la semaine passée. Alors, ils ont terminé mercredi passé le déplacement. Alors, ils sont présentement à environ 20-25 kilomètres au sud de Séville. Alors, c'est une ville qui s'appelle Coria del Rio. Alors, ils ont monté déjà le campement, les dernières nouvelles. Alors, ils devraient commencer normalement les réunions cette semaine. Alors, c'est vraiment un privilège parce que ce n'est pas évident. C'est pas facile de pouvoir justement se déplacer comme ça d'une ville à l'autre dans les temps que nous vivons, d'avoir les autorisations de pouvoir nous installer et de pouvoir prêcher l'Évangile, parce que c'est vrai qu'on occupe quand même environ 3500 à 4000 mètres carrés de terrain. Et d'avoir les autorisations, ça devient toujours de plus en plus difficile. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a aidés encore cette dernière année. Et on remercie le Seigneur qu'encore l'Évangile pourra être proclamé dans cette ville de Coria del Rio. Alors, priez pour toute l'équipe, continuez à prier, vous recevez nos lettres de nouvelles. Et c'est vrai, c'est pas qu'on est nombreux pour faire le travail que nous faisons, faire les déplacements. Alors, priez pour, aussi pour la santé de chacun, parce que c'est vrai que ici et là, différents problèmes, un frère qui a eu un hernie, enfin des problèmes de dos, des problèmes de hanche, mon frère Simon qui aura besoin de passer par une opération. Alors, priez pour tous ces sujets et priez pour l'équipe afin que nous puissions continuer à proclamer ce beau message de l'Évangile. C'est vrai, la Pâque, eh bien, il est dit que dans le monde, il n'y a que la religion chrétienne est la religion la plus nombreuse sur la face de la Terre. On dit environ 2 milliards 200 millions de personnes qui se déclarent, enfin, d'appartenir à une religion chrétienne. Bien sûr, est-ce la réalité? Pour nous dire que c'est ça, c'est l'Église. Alors, pour ça, ce matin, j'aimerais parler de la chrétienté et de l'Église. Parce qu'il y a quand même une différence. On peut parler de la chrétienté, ça inclut tous les pays qui portent le nom de chrétien, ou tous ceux qui, dans certains pays, majorité d'une autre religion se disent être chrétiens, mais est-ce qu'ils ont expérimenté le salut en Christ? Cette vie nouvelle de laquelle nous avons parlé, nous avons chanté ce matin. Eh bien, je crois que ça, c'était très, très important. Excusez-moi. C'est très important. C'est un sujet, je crois, que des plus importants, et être au clair, la différence entre ce qui s'appelle la chrétienté et ce qu'est l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est l'Église avec un E majuscule accent aigu. Voilà. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu nous parle, Jésus nous parle dans les paraboles qu'il a données, il touche ce sujet. Alors, peut-être que on n'est pas toujours conscient, en lisant les paraboles, que ce sujet-là est bien, bien concret dans les Écritures. Je lisais encore, il y a un peu plus d'une semaine, un un passage que nous connaissons tous. Alors nous allons passer à travers quelques paraboles de Jésus qui nous montrent cette réalité. Ce n'est pas tout de dire « nous sommes chrétiens ». Bon, il y a toutes sortes de groupes, il y a le catholicisme, le protestantisme, l'église orthodoxe, il y a les coptes, ça s'étend, n'est-ce pas? Et puis, même dans toutes les dénominations évangéliques aussi, alors bon, pratiquement tout le monde se déclare chrétien. Mais si nous regardons ce passage dans Matthieu chapitre 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Et là, nous avons ce qu'on peut appeler l'Église. Avec E majuscule, n'est-ce pas? Avec l'accent. Alors, l'Église. Le roc, on sait que c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre roc sur lequel nous pouvons fonder notre vie. Il est le roc. Et ceux qui ont fondé leur vie sur le roc, sur Jésus-Christ, qui ont Jésus-Christ comme fondement, bien voilà, ils font partie de l'Église. Maintenant, Jésus continue et dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Et là on peut dire, mais qui sont ceux qui entendent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique? Bon, mais on peut dire, bien, c'est clair que si on prêche l'Évangile à une personne qui se dit athée, il entend, il ne fait pas de cas, ben voilà. On pourrait dire, ben voilà, ça fait partie du nombre de ceux dont Jésus parle ici. Mais je dirais que le nombre est nettement plus grand là où des personnes peuvent se dire être chrétiens, entendent la parole de Dieu, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ça n'a aucun effet. Or, j'ajoute à ceci que dans la chrétienté, nombreux, je dirais, là, on parle, on dit 2 milliards, 200 millions, mais là, on devrait examiner un petit peu combien de personnes, justement, sont dans ce nombre-là. Alors, ceux qui entendent, voilà, mais ça n'a aucun effet. On construit sur le sable, on ne construit pas sur le roc. Alors, ça, c'est l'une des paraboles. Bien sûr, si nous allons au chapitre 13 de Matthieu, eh bien là, nous trouvons différentes paraboles de notre Seigneur. Et là, nous avons la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Bon, là, on a ces trois groupes de personnes. Alors, ceux qui, dont la semence tombe le long du chemin, ceux dont la semence tombe parmi les pierres, et puis les autres, la semence tombe parmi les épines. Et là, on voit qu'en réalité, autant les uns que les autres, eh bien, ça ne produit pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Et ça, je dirais que ça fait partie de la chrétienté dans le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de personnes entendent la parole, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. D'autres, peut-être, recevront cette parole, voilà, une certaine joie de la recevoir, mais le terrain n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de terre, c'est pas très profond. Et aussitôt que le soleil sort, hein, les difficultés, les persécutions, à cause de la parole, on te dit « Ah, tu es chrétien, toi, mais voyons, mais... » Alors, on se rétracte. Et puis, il y a ceux qui tombent, bien parmi les épines, c'est dit parmi hein, les richesses, les préoccupations de la vie, et puis voilà, et ils ne donnent pas de fruits. Alors ça, on pourrait classer ça parmi la chrétienté. Mais, il y a bien sûr une autre partie, en bas, dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et ça, c'est l'Église. Alors, si nous continuons, nous avons également la parabole, nous pouvons lire, il leur propose une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Et s'en alla, donc dans le même champ. Alors là, vous avez un champ, et puis, le blé a été semé. Alors là, il y a du blé. Et là, avec le blé, apparaît quelque chose qui peut ressembler un peu au blé, mais qui n'est pas du blé, c'est de l'ivraie. Il y a une certaine ressemblance, mais ça n'a rien à faire l'un avec l'autre. L'ivraie n'est pas du blé, le blé n'est pas de l'ivraie, ce sont deux choses différentes. Alors là, nous savons la chrétienté, c'est-à-dire l'ivraie, et ça dans un même champ, c'est pas dans deux champs différents, dans un même champ, vous avez l'ivraie et vous avez le blé. Le blé, eh bien c'est l'Église. Et puis, si nous continuons, on a bien dit, bien sûr, dans cette parabole, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous savions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, on ne déracigne en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors on voit que les deux ne terminent pas au même endroit. Hein. L'ivraie termine à un endroit, brûlé. Le blé est amené dans le grenier. Et ça, c'est une représentation, justement, n'est-ce pas, du ciel. Hein. On passera l'éternité avec le Seigneur, tous ceux qui l'ont connu. C'est dit comme cela, il leur propose une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors là, vous savez, le grain de sénévé, la plus petite des graines qui existent, d'ailleurs, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, hein, alors il compare la foi chrétienne à un grain de sénévé. Et puis, donc, ce grain de sénévé, qui produit un arbre? Vous savez, c'est la plus petite des semences, mais ça produit un arbre. Et puis, il est dit que les oiseaux du ciel viennent s'ajouter, viennent faire leur nid, hein, viennent se percher dans l'arbre, et puis voilà, ils font leur nid. Et bien voilà, c'est bien sûr, on dirait que l'arbre grandit, hein, il y a plus que l'arbre, il y a beaucoup d'oiseaux, ça fait beaucoup plus ample. C'est un peu ça la chrétienté, hein. C'est très ample. Mais en réalité, voilà, les oiseaux n'ont rien à faire avec l'arbre, et l'arbre n'a rien à faire avec nous, les oiseaux. On sait que ce sont deux natures différentes. Au fait, on pourrait dire, ben, les oiseaux, ben, c'est très joli les petits oiseaux, hein. Les petits oiseaux, ils ont fait leur nid. Mais là, si on prend la parabole du semeur, les oiseaux qui viennent pour voler la semence, eh bien, ce n'est rien de très beau, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas... Là, Jésus dit, c'est le malin qui vient pour voler ce qui a été semé dans le cœur, voilà. Alors, donc, il y a là aussi, dans cette parabole, on voit le contraste entre les deux. Et puis,
si nous lisons le verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alors là, nous avons 3 mesures de farine. Vous avez la farine et vous avez aussi le levain. Alors, la farine, ce n'est pas du levain. Le levain, ce n'est pas de la farine. C'est 2 choses bien différentes. Et nous pourrions lire un passage en 1 Corinthiens, chapitre 5. Les versets 6 et 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir de la 2e moitié du verset 6. On peut lire aussi le verset 8. Alors, nous fêtons la Pâque aujourd'hui. Jésus, ça c'est l'apôtre Paul qui déclare, il dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Alors, Paul déclare aux Corinthiens, il dit, « Vous êtes sans levain. » Et c'est ça l'Église. On sait qu'à la Pâque juive, une des choses qui était offerte durant la Pâque, c'était le pain sans levain. Hein, ils devaient manger le pain, mais ça devait être du pain sans levain. Et là, nous lisons, nous continuons à lire, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Les pains sans levain de pureté et de vérité. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église, frères et sœurs. Moi, je me souviens, deux de mes frères, moi, je suis né dans une région du Québec, ça s'appelle le Bas-Saint-Laurent. Alors, le Saint-Laurent, c'est une rivière, hein. Et puis là, à la hauteur d'où nous vivons, nous, on ne voit même pas l'autre côté, hein, la rivière. Le fleuve est très large. À Québec, il y a un pont qui traverse, mais vous allez plus vers la sortie, vers l'estuaire. Et alors, je suis venu dans le Bas-Saint-Laurent. C'est juste à l'entrée de la Gaspésie, une autre région. La Gaspésie, c'est une presqu'île. Alors, c'est entouré pratiquement d'eau, hein, sur pratiquement 3 côtés. Hein. Et puis, deux de mes frères avaient décidé de faire le tour de la Gaspésie en autostop. Alors, mon frère Simon avait préparé les sandwichs, il les avait préparés avec du pain toast. Vous voyez un petit peu, pain toast, hein? Oui. Alors, il a fait les sandwichs, puis voilà, mais ils sont partis. Mais là, en cours de route, mon frère Mathieu dit, ben, on va s'arrêter, on va manger quelque chose. Alors, il dit, sort les sandwichs. Et là, mon frère Simon cherchait les sandwichs. Et mon frère Mathieu lui dit, mais tu as oublié les sandwichs? Non, non, je ne les ai pas oubliés. Mais non, mais je les ai mis dedans. Mais ils sont où alors? S'ils ne sont pas là, où sont-ils passés? Finalement, il les a trouvés. Mais voyez-vous, c'était comme ça. Un peu près comme une feuille de papier. C'était tellement... ça avait tellement été pressé que ce pain, vous savez, il y a tellement de levain là-dedans qu'il n'y a pas grand-chose. Et voilà, ben... Et frères et sœurs, c'est vrai que la chrétienté, on peut dire 2 milliards, 200 millions, c'est un grand chiffre, hein, mais combien de levain, frères et sœurs? Ça, c'est une tragédie, hein, je dirais, c'est une tragédie. Hein. Être si près de la vie, il ne jamais l'expérimenter. Et si nous continuons les paraboles de Jésus, bien, il y a la parabole du filet qui a été jeté dans la mer, hein, Jésus a dit, et qui ramasse toute espèce de poisson. Et ensuite, on fait le tri. On jette ce qui n'est pas bon, et puis on recueille ce qui est bon. Ben, Jésus a dit que ce serait comme ça aussi à la fin. Voilà, toutes sortes de poissons. C'est ça la chrétienté. Mais voilà, ce qui va rester, ce qui est bon, hein, comme dit le Seigneur. Et bien ça fait partie, ça c'est l'Église. Alors, bien sûr, le temps nous manquerait pour parler de la parabole des 10 vierges, là aussi, la chrétienté, l'Église. Nous avons la parabole des talents, la même histoire. Là aussi, deux ont produit, un qui n'a rien produit. Voilà, il n'a rien produit, son talent, rien du tout. Voilà. Il y a aussi la parabole du jugement des nations, où Jésus dit que, le royaume, c'est un peu semblable à un troupeau dans lequel vous avez des boucs et vous avez des brebis. Et ça, on le voit en Espagne. Nous, ça nous arrive, on était dans une région, là, on est dans la région de Séville, mais ces dernières années, nous étions dans une région plutôt agricole. Et là, vous avez des bergers avec leurs troupeaux, mais là, vous avez des boucs, des chèvres, donc, et des brebis dans le même troupeau. Les brebis ne sont pas des boucs, les boucs ne sont pas des brebis, c'est complètement différent. Et voilà que le Seigneur a dit, bien, il divisera, il séparera les uns des autres. Ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Ses brebis entendent sa voix et elles le suivent, Jésus a dit. Et bien sûr, on pourrait se poser la question, alors l'Église, quelle définition devons-nous donner de l'Église? Moi je dirais, aujourd'hui on a chanté plein de chants, il y a deux mots qui viennent, qui ont sorti tout le temps. Hein. Vous prenez tous les chants qu'on a chantés ce matin, c'est le mot « victoire » ou alors le mot « vainqueur ». On sait que Jésus a été victorieux, on l'a chanté aussi ce mot, hein, « victorieux », que Jésus est vainqueur, et ceux qui font partie de l'Église, ce sont les vainqueurs. Voilà, on pourrait dire que ça c'est la définition qu'on pourrait donner à l'Église, les vainqueurs. Je me souviens... Ça, c'était dans les années 80, pas très longtemps après notre mariage avec Muriel. J'étais chez mes beaux-parents à Clarence, on faisait la tournée. C'était dans les premières années, je crois, qu'on commençait la tournée. Et c'était au dîner. Alors, le papa de Muriel, pour ceux qui l'ont connu, je crois notre frère Georges Calame l'a connu, hein, Gaston Christina, hein. Alors, différentes personnes l'ont connu, il était pasteur de l'église libre du Locle de 1949 à 54, et puis à la chapelle de Clarens, où nous logeons, de 1954 à 1981. Et puis là, mon beau-père est assis à la table, ma belle-mère était passée à la cuisine pour aller chercher le dessert. Mon beau-père était assis là, j'étais assis là, Muriel était assis là, sa sœur était assise au bout de la table, ma belle-mère était passée à la cuisine. Il y avait un silence. On aurait pu entendre une mouche voler, je crois. Et soudainement, mon beau-père, au milieu de ce silence, il a éclaté en disant « À celui qui vaincra !» Moi, j'étais assis sur ma chaise, ça m'a surpris. Je regarde mon beau-père, Gaston. Je vois qu'il était dans une certaine méditation, bien sûr, et ça ne lui est pas venu simplement comme ça. À celui qui vaincra. Et frères et sœurs, si nous regardons les sept églises, notre frère Pierre nous a introduit, n'est-ce pas, le livre de l'Apocalypse, et là ça parle des sept églises. Et si nous regardons aux sept églises, mais frères et sœurs, si on regarde à ce qu'il y avait là, la première église, l'église d'Éphèse, elle avait perdu son premier amour. Vous savez, la troisième église mentionnée, la quatrième, alors c'est Pergame et Thyatire, là, elles avaient des fausses doctrines. On regarde la cinquième église, et la dernière église, c'est Sardes et Laodicée. Sardes se disait d'être vivant. Le Seigneur déclare, mais tu es mort. Laodicée, il dit, tu es tiède, tu es ni froid, ni chaud, tu es tiède. Si tu restes comme ça, je vais te vomir de ma bouche. Bon, alors là, vous avez ça aussi. Et puis, vous avez deux églises, c'est Smyrne et Philadelphie. Alors, à ces deux églises, aucune réprimande. Ce manque des louanges. Alors, bon, ben. Alors, on pourrait se poser la question. Alors, l'Église, elle est où à ce moment-là? C'est où, l'Église? Est-ce que c'est Smyrne, Philadelphie? Est-ce que, en me joignant à l'église de Smyrne et à l'église de Philadelphie. Voilà, mon passeport est assuré pour le ciel. Mais on sait, frères et sœurs, que ce n'est pas comme ça. Hein. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Alors, on pourrait dire, mais là, surtout pas Laodicée, et surtout pas Sardes, parce que là, c'est un vrai désastre. Alors, bon, mais si nous regardons à ces sept églises, à chacune d'entre elles, le Seigneur déclare « à celui qui vaincra ». Et ça, c'est aussi vrai pour Smyrne et Philadelphie que ce ne l'est pour Laodicée et Sardes. À toutes les églises, il déclare « à celui qui vaincra ». Alors, elle est où l'église? Parce que l'église que le Seigneur vient chercher, c'est l'église qui est sans ride et sans tache. On va la trouver où? On va la trouver où? Mais moi, je connais des frères, on les rencontre une année dans une église, deux ans, deux, trois ans après, on les rencontre dans une autre église. Cinq, six ans après, ils sont encore dans une autre. On s'est dit, mais tu as changé de travail, tu t'es déplacé. Non, non. Je suis toujours au même endroit, mais voilà. Alors, on recherche l'église parfaite. L'église sans ride et sans tache. Elle est où? Mes frères et sœurs, où est-ce qu'elle se trouve? À celui qui vaincra. Et là, frères et sœurs, je trouve que c'est formidable, parce que là, Laodicée et Sardes ont aussi une occasion, parce que le Seigneur leur dit « à celui qui vaincra ». Il leur dit aussi, il y a une promesse à ce moment-là de vie et de bénédiction à celui qui vaincra. Bien sûr, à ceux qui se trouvaient, qui avaient perdu leur premier amour, à ceux qui étaient dans des fausses doctrines, à ceux qui étaient morts, qui se disaient vivants, mais qui étaient morts, eh bien le Seigneur les appelle à la repentance. Bien sûr, il y a des conditions. Donc, il les appelle à la repentance, à se repentir d'avoir perdu leur premier amour ou d'avoir suivi des doctrines qui n'étaient pas selon sa parole, ou alors d'être tombé dans cet état, on pourrait dire mortel ou tiède, dans lequel elle se trouvait. Mais là, il y a la possibilité de repentance, il y a la possibilité de mettre les choses en ordre, et à ce moment-là, la personne peut expérimenter à ce moment-là la bénédiction du Seigneur, cette vie nouvelle, l'Esprit de Dieu qui vient, et puis voilà, le Seigneur qui nous pardonne, qui nous nettoie, et puis qui nous remplit de son esprit, déverse son amour en nous, et puis voilà. Et frères et sœurs, voilà, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Parce que chercher un endroit parfait, vous savez, si jamais vous venez nous visiter en Espagne et vous vivez suffisamment de temps au milieu de nous, ben, vous allez vous rendre compte, vous allez dire, mais ce frère, mais alors, mais pourquoi agit-il comme ça? Mais quel exemple? C'est pas un très bel exemple, alors vraiment, c'est pas drôle, hein. Ça partout, frères et sœurs. Vous allez trouver, vous allez aller dans une église, vous allez aller dans une autre. Vous avez des exemples, vous avez... Il y a la possibilité pour la personne de se repentir, heureusement, hein, que le Seigneur nous donne cette occasion, se repentir, remettre les choses en ordre, et puis voilà, marcher selon l'Esprit du Seigneur. Alors, bien sûr, pour cela, bien, ça prend... L'apôtre Paul déclare, il dit, termine sa lettre aux Galates en disant... Ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas l'incirconcision, ce n'est pas la forme extérieure. C'est d'être une nouvelle créature. Voilà, nous avons besoin d'une nouvelle créature. Nous avons besoin de naître de nouveau, expérimenter cette vie nouvelle. Et comme nous avons chanté ce très beau chant, eh bien, c'est vrai, avoir la vie en Christ. Lui, il est notre victoire. Et si nous sommes en Christ, eh bien, à ce moment-là, nous avons la victoire. Nous avons une vie nouvelle. Et frères et sœurs, c'est vrai, si quelqu'un est en Christ, dit Paul aux Corinthiens, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées, tout est devenu nouveau. Voilà, le Seigneur change, transforme, nettoie, purifie. Et puis, il y a quelque chose de nouveau. Alors, frères et sœurs, quelle belle espérance nous avons. Et ce jour de Pâques, un jour d'espérance. Amen. Parce que Christ, comme nous l'avons chanté, est vivant, il est vainqueur. Et en lui, frères et sœurs, dit l'apôtre Paul aux Romains, nous sommes plus que vainqueurs. On dirait que le mot est encore trop petit. C'est encore au-dessus, frères et sœurs. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, frères et sœurs, gloire au Seigneur, que toute la gloire lui revienne, et puis voilà. Cherchons-le. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit comme cela. Alors là, il écrivait, vous savez ça, ces églises-là qu'on parle, on parle des églises, les sept églises, c'était pas du 5e siècle ou 6e siècle, c'était pas au Moyen-Âge, l'église du Moyen-Âge. Ça, c'était l'église du 1er siècle qui se trouvait dans cette situation-là. Alors là, il écrit aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit, « Dépouillez-vous du vieil homme, revêtez l'homme nouveau. » Ça peut nous arriver, frères et sœurs. Ça peut nous arriver, ça peut m'arriver à moi. Il ne faut pas penser, frères et sœurs, hein, voilà, les groupes missionnaires, voilà, ce sont la première catégorie. Non, c'est pas ça. Chaque personne, sa relation avec Dieu. Muriel me disait aussi, elle disait, tu sais, Vital, avec un message comme ça, c'est vrai qu'il faut regarder à nos vies et faire attention, hein, comment nous marchons. Hein, pour remettre en question, nous examiner devant le Seigneur, dire, Seigneur, comment est ma vie en relation avec la tienne? Est-ce que c'est comme ça doit être? Alors, dépouillons-nous du vieil homme, revêtons l'homme nouveau. Ça, il le dit bien à des chrétiens, il ne le dit pas à ceux du monde. Il écrit à l'église de Éphèse. Alors, frères et sœurs, nous avons en Christ la victoire et marchons dans cette victoire. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai que sans toi, Seigneur, nous étions non seulement égarés, mais, Seigneur, complètement condamnés, perdus, sans espérance. Eh bien, Seigneur, la Pâque, eh bien, c'est l'espérance. L'espérance qu'a amené ta mort et ta résurrection. Mort pour nos péchés, pour nous nettoyer, vivant afin que nous vivions nous aussi. Eh bien, Seigneur, merci pour ta vie et merci pour cette vie que tu manifestes en nous. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons et te remercions au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bonne Pâque, bon dimanche à chacun. Seigneur vous bénisse.